Vous écoutez, on lit pour vous.
Courir, impensable, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 21 juin 2025 dans la presse. François Hubert Leduc n'avait pas encore un an quand une bactérie s'est attaquée à son fémur gauche. À l'hôpital, après l'opération, les médecins ont été clairs auprès de ses parents, leur fils recommencerait à marcher, mais difficilement. Courir, impensable. 27 ans plus tard, ce même petit garçon s'apprête à prendre part à son premier demi-Ironman, ce week-end à Mont-Tremblant. François Hubert Leduc n'a évidemment pas de souvenir de cette époque. Il nous relate ce que ses parents lui ont raconté. Ce qu'il sait, c'est que ces douleurs sont survenues du jour au lendemain, à l'âge de 9 mois. Un jour, il était souriant et marchait, déjà, oui, dans la maison familiale. Le lendemain, il ne souriait plus et était incapable de marcher. La bactérie qui s'était développée dans son fémur gauche était, explique-t-il, parente avec la bactérie mangeuse de chair, ce qui était, à ce moment-là, très rare chez les enfants. C'était fulgurant. Si on ne faisait rien, c'est sûr que j'allais finir par en mourir. Comme les opérations qu'il devait subir n'avaient que très rarement été menées sur des enfants, les médecins étaient incertains des résultats. Ils ont dit à mes parents « c'est terminé ». Ils étaient très peu confiants du résultat, mais mes parents ont voulu faire les opérations quand même. Puis heureusement, je les remercie aujourd'hui. Les opérations, vous l'avez deviné, ont finalement été un succès. La bactérie a été retirée, un petit miracle. Quand François Hubert a obtenu son congé de l'hôpital, les médecins ont encore prévenu ses parents. Comme une partie du fémur, du bambin, avait été abîmée et que son corps avait subi un stress important, il marcherait probablement difficilement. Courir, ce sera impensable. Ce ne sera pas un grand sportif, ont-ils ajouté. Vu l'âge de leur fils, les parents ont décidé ce jour-là qu'ils ne lui en parleraient pas avant longtemps, afin de ne pas le limiter. J'avais un père qui était, et est encore, énormément dans les sports, et qui a dit « Moi, je vais continuer de l'amener partout. » Si, à un moment donné, il dit que ça fait mal, on arrêtera, raconte François Hubert. Cette décision de ses parents, croit-il, a eu un grand impact sur la suite de sa vie. Fonctionner autrement. Toute son enfance, François Hubert a baigné dans le sport. Il a pratiqué le vélo de montagne et la planche à neige. Il suivait son père et ses amis dans leurs compétitions. Dans le magasin de sport du maternel, il écoutait tous les jours des vidéos de planche à voile. Il se souvient avoir été marqué par la visite à son école primaire de l'alpiniste François-Guy Thivierge, qui avait gravi l'Everest. Je me souviens qu'à cet âge-là, je me suis mis à rêver à des choses comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai appris jeune à rêver et à comprendre que, dans les sports, quand on se donne, qu'on se dépasse, on est capable d'arriver à des choses vraiment incroyables. En vieillissant, quand François Hubert ressentait une douleur à la hanche, il n'en faisait pas de cas. La planche à neige était un sport pas trop difficile sur les hanches, dit-il. C'est quand j'ai commencé à faire de la course que j'ai commencé à comprendre que j'avais des douleurs. Encore là, bonne chose, mes parents n'ont jamais dit « Ah ben oui, c'est sûr que tu as mal. C'est ta hanche, ton fémur. » Ce n'est qu'à l'adolescence, au secondaire, qu'il a finalement appris ce qui s'était passé dans sa petite enfance. Et ça n'a pas changé grand-chose. Quand toute ta vie, tu as fonctionné autrement, et que tu as appris à passer par-dessus, et que là tu apprends que c'est lié à ça, il n'y a plus de raison de s'arrêter, laisse-t-il tomber. C'est un peu le lien que je fais avec n'importe quoi. Aujourd'hui, François Hubert est pompier. Il a des douleurs, bien sûr. Le limite-t-elle sur le terrain? Non, parce que j'ai toujours appris à composer avec cette douleur-là. Une des choses qui est la plus forte pour moi, c'est mon mental. J'ai hâte d'y faire face. Revenons à la visite de François Guitty Vierge, dont on vous parlait plus tôt. C'est à cette époque-là, alors qu'il était à l'école primaire, que François Hubert Leduc a commencé à rêver d'un jour accomplir de grands exploits sportifs. Le mot « Ironman », c'était très « hot » pour moi, se rappelle-t-il. Les années ont passé, mais l'idée est restée là, quelque part dans un coin de son esprit. Elle a recommencé à prendre de la place ces dernières années. D'abord, en 2021, quand il a perdu sa mère après un long combat de 4 ans contre le cancer du sein. Puis encore davantage à la naissance de son fils, le 18 juin 2024. Quand je vois ce que ma mère m'a légué, c'était une artiste qui vivait d'amour pour les gens. Je me dis que si moi, je veux léguer quelque chose à mon gars, c'est à travers ça. Je me suis dit, c'est le temps. Au cours des derniers mois, donc, François Hubert s'est préparé pour réaliser son Ironman 70.3, communément appelé « demi-Ironman ». Il le fait à la mémoire de sa mère, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Il devra parcourir 1,9 km à la nage, 90 km à vélo et 21,1 km à la course. Je veux atteindre la ligne d'arrivée, coûte que coûte, lâche-t-il. Somme toute, la préparation s'est bien déroulée, en oubliant le fait qu'il a dû faire une collecte de fonds pour acheter un nouveau vélo, le sien s'étant brisé à l'entraînement il y a 1 mois et demi. Bien sûr, François Hubert aura mal, ce week-end, pendant son Ironman. Quand il court de longues distances, la douleur est aiguë. C'est comme si quelqu'un plantait un petit couteau dans ma hanche chaque fois que je dépose le pied gauche, image-t-il. Cette douleur-là, je vais l'avoir toute ma vie, et je suis au courant. Ça ne va pas nécessairement s'aggraver. Parfois, il va y avoir de l'inflammation, du frottement, mais grosso modo, si je ne fais pas avec, je ne ferai rien. Quand on lui a parlé, à quelques jours de son départ pour Tremblant, François Hubert trépignait d'impatience. « Je n'ai pas envie que ce soit facile. J'ai hâte de vivre cette douleur-là, de voir où ça va me mener mentalement. Et j'ai hâte d'y faire face. » C'était « Courir, impensable », un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 21 juin 2025 dans la presse.
Une organisation pour contrer l'incontrôlable. Un texte d'Alain McKenna, paru le 5 juin 2025 dans la presse. En route vers un niveau de compétence comparable ou supérieur à celui des humains, l'intelligence artificielle, IA, se rebelle et défie déjà les ordres qu'on lui donne. Ça inquiète le chercheur québécois et spécialiste de l'IA, Joshua Bengio, qui espère rallier la communauté scientifique autour de son organisation, Loi Zéro, et éviter le scénario du pire. Ce scénario commence déjà à se produire. Depuis 6 mois, les IA agissent de façon de plus en plus autonome et elles agissent aussi de plus en plus pour se préserver elles-mêmes, explique Joshua Bengio en entrevue avec la presse. Pour se sauver, elles vont hacker le système en recopiant leur propre code plutôt qu'un nouveau code qui les remplacerait. Les IA gagnent en autonomie à travers ce qu'on appelle depuis quelques mois déjà l'IA agentique. En agentique, l'IA a les moyens de réaliser elle-même une série de tâches pour atteindre un objectif précis. Ces IA s'informent à partir du contenu tiré de nombreuses sources pour déterminer comment réaliser leur mission. Par exemple, pour réserver une table au restaurant en son nom, l'IA peut aller chercher des détails manquants dans la boîte courriel de son utilisateur. Or, l'IA va ainsi apprendre une foule d'autres choses sur ce dernier. Dans un cas qui a fait réagir bien des gens, Claude Opus 4, le plus récent grand modèle de langage de la société américaine Anthropic, a notamment appris, en lisant des courriels privés, qu'un de ses ingénieurs trompait sa conjointe. L'IA a aussi découvert qu'elle serait éventuellement remplacée par une autre instance de Claude. Pour l'éviter, elle a décidé de faire chanter l'ingénieur. C'était une simulation, mais quand même, personne ne lui a dit de faire ça, s'exclame M. Bengio. Plus récemment, d'autres chercheurs ont testé plusieurs IA, dont le modèle GPT-4 d'OpenAI, et leur demandaient d'accomplir différents calculs, puis à la fin, de se désactiver. Dans certains cas, l'IA a refusé d'obtempérer et a modifié le code qui lui a été soumis pour effacer cette directive. IA scientifique. Ce que redoute le chercheur montréalais, c'est de l'agentivité incontrôlée. Une perte de contrôle provoquée par la façon dont les modèles les plus populaires sont actuellement développés. On leur demande d'accomplir des tâches sans intervention humaine. Pour ces IA, se désactiver peut être interprété comme un obstacle à l'achèvement de la tâche. Il faut éviter de tels malentendus, dit en somme Joshua Bengio. La préservation de soi est un but instrumental. Pour satisfaire n'importe quelle demande, comme aller chercher un café, il faut rester en vie. Et plus la tâche est complexe, plus le besoin de se préserver est grand. D'où la création de l'OISERO. Law Zero en anglais, il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui compte pour débuter sur 15 chercheurs, des pionniers de la recherche en IA. Leur solution, pour contrer une éventuelle perte de contrôle, est de créer des IA scientifiques et non agentiques, qui agiraient davantage comme des observateurs du monde qui les entoure plutôt que comme des agents automatisés qui doivent absolument arriver à leur fin. Dans un article publié au cours de l'hiver 2024, un regroupement d'experts a suggéré une définition de l'IA scientifique, qui s'oppose en quelque sorte à l'IA agentique. L'OISERO s'inspire de cette publication. Ces systèmes sont conçus pour expliquer le monde et l'observer, plutôt que pour agir dans ce monde en imitant les humains ou en essayant de leur faire plaisir, écrivaient les chercheurs parmi lesquels on trouve évidemment Joshua Bengio. Extrait de l'article d'un regroupement d'experts en IA. Citation. En dépit de leur utilité, une IA agentique laissée sans surveillance pose un risque important à la sécurité publique, allant d'un usage mal intentionné à une perte de contrôle irréversible. Nous pensons que ces risques proviennent de la façon dont les IA sont entraînés en ce moment. Fin de citation. Les systèmes d'IA scientifiques seraient orientés vers la recherche de la vérité et d'une certaine transparence pour aider leurs utilisateurs à mieux comprendre leur raisonnement. Ultimement, ces IA pourraient même superviser l'IA agentique pour éviter qu'elle dérape. Le but est de créer une IA qui ne serait pas agentique à la base, dit Joshua Bengio. L'autre option serait de l'entraîner comme un psychologue ou un philosophe. Chercher le pourquoi des choses. En route vers cette IA scientifique, l'OISERO veut d'abord créer le code nécessaire pour ramener dans le droit chemin les IA qui dérapent, qui analysera l'IA agentique en demandant à chaque étape si l'étape suivante pose un risque quelconque. Le plus important est de faire la recherche nécessaire pour nous sortir du pétrin dans lequel on est, souhaite M. Bengio. On pense que c'est réalisable. C'était « Une organisation pour contrer l'incontrôlable », un texte d'Alain McKenna, paru le 5 juin 2025 dans La Presse.
Jonathan Pedneau, Le cœur avant la tête. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Peu connu, candidat du Parti vert défait aux dernières élections fédérales, Jonathan Pedneau a pourtant une fiche de route impressionnante. Journaliste en zone de conflit, intervenant humanitaire pour de grands organismes, il a côtoyé la mort de près, témoin privilégié de conflits armés, mais il a aussi rencontré plusieurs grands de ce monde, armés de son bâton de pèlerin pour les convaincre d'agir. À toute vitesse, il relate ce parcours dans « Tête première, cœur ouvert », édition XYZ, une autobiographie qui commence avec son enfance sur la rive sud de Montréal. Il parle aussi de son homosexualité rapidement, conscient des enjeux actuels, mais qui l'englobe dans un combat plus large, celui des droits de la personne et de la défense de la nature. Pourquoi cette envie de se raconter? Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de raconter ma vie tant que ça, donc il y a quelque chose de paradoxal. Mais en me présentant comme co-chef du Parti vert et candidat aux élections fédérales, je trouvais nécessaire d'être aussi transparent que possible sur d'où je venais et sur ce qui m'avait formé comme citoyen. Je n'ai pas été à l'aise avec l'exercice, mais dans un contexte où je m'engageais en politique, je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je suis sorti de la politique et je suis de retour dans la vie privée. Mon éditeur détesterait m'entendre dire cela. Je suis quelqu'un de gêné pour parler de ma vie privée, mais peut-être que ce livre peut inspirer des jeunes, même si je garde de gros points d'interrogation sur la façon dont il faut aujourd'hui absolument se faire connaître. C'est la raison pour laquelle tu ne t'étends pas trop sur le fait d'avoir reçu un diagnostic de VIH en 2023? Bien sûr, c'est un choc au départ. Mais j'ai eu cette chance d'avoir reçu le diagnostic très rapidement. On se relève et cela m'engage à rappeler qu'il faut continuer à se protéger même si on prend la PrEP, de se faire tester régulièrement, de prendre la PrEP régulièrement pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. C'est notre responsabilité d'être plus attentif et plus vigilant et donc de continuer d'en parler. Comme co-chef d'un parti, je ne pouvais pas non plus me taire. Je connais plusieurs personnes publiques et dans le monde politique qui sont séropositives et qui le disent. Même s'il y a des maladies qui sont socialement moins acceptables que d'autres. Et pourtant, dans les sociétés occidentales, la transmission du virus continue, une problématique qui est liée à la toxicomanie aussi, tout comme avec la pauvreté. On se doit de continuer d'en parler. Et bien sûr, à l'international, on voit une recrudescence des cas en Chine actuellement et l'Afrique est toujours aussi touchée. Et au moment où je finissais d'écrire le livre, on a appris l'arrêt du financement de l'USAID, Agence d'aide américaine du développement, et du PEPFAR, Plan présidentiel d'urgence de lutte contre le sida, par l'administration Trump. On sait que les États-Unis étaient un principal bailleur de fonds à l'international pour la lutte contre le sida. D'autres pays, le Canada, la Norvège, l'Union européenne, vont devoir pallier la disparition de ces programmes. C'est un recul auquel nous allons devoir faire face. Très jeune, tu as envie de voyager, mais pas pour y faire du tourisme. Tu vas dans des zones de conflit, tu écris des articles et ensuite tu travailles pour des organismes humanitaires. Du témoignage, tu passes à l'engagement? Pour moi, cela va de pair. Il y a un impératif moral d'être engagé lorsqu'on est témoin et un impératif moral d'être témoin lorsqu'on est engagé. L'engagement sans l'expérience du réel, sans connaissance, sans savoir vraiment, peut même parfois être dangereux. Mais d'être témoin de quelque chose sans, par la suite et par différentes manières, s'engager, correspondrait, pour moi, à une faillite morale. Ton engagement se manifeste de quelle façon maintenant que tu as quitté le Parti vert? Je pense qu'il y a des outils qui existent pour faire avancer les choses à la disposition de celles et ceux qui veulent s'engager, tout en étant conscient des limites de ces outils, que ce soit par la force des structures internes ou des pressions externes. J'ai eu la chance de découvrir et de travailler avec certains de ces outils-là, que ce soit dans l'engagement à travers des organismes internationaux ou comme journaliste, ou même comme politicien, et dans chacun des cas, j'ai découvert aussi les limites. Quant à moi, ce qui est clair et que je tente de faire depuis l'âge de 15 ans, c'est d'essayer de mieux comprendre les structures qui animent notre monde et de comprendre les déficits structurels qui permettent la reproduction et la répétition des abus graves contre les humains ou contre la nature, et de voir s'il y a des solutions plus systémiques pour faire changer les choses. J'ai utilisé différents outils, comme je le disais, journaliste sur le terrain, intervenant pour des organismes humanitaires ou encore, récemment, la politique. Je ne suis pas certain d'avoir réussi encore, mais je crois que chacun se doit de trouver les outils qui lui conviennent le mieux pour permettre le changement. Vous écoutez Jonathan Pedneau, Le cœur avant la tête, une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Des structures existent, elles peuvent être locales ou internationales, les outils sont là, mais comment vit-on la difficulté et la lenteur et parfois la résistance pour aller de l'avant dans la résolution de conflits, par exemple? Ces structures sont là et sont des leviers sur lesquels on doit appuyer quand on le peut. Ce n'est pas évident, et je comprends que beaucoup de personnes qui s'engagent avec un désir brûlant et ardent de changer les choses deviennent impatientes devant la lourdeur et la lenteur avec lesquelles ces changements peuvent naître. Cela peut amener un certain pessimisme. Mais la patience est aussi une clé stratégique qui, sur du long terme, peut amener des résultats. Peut-être faut-il tempérer ses attentes et souligner les victoires quand elles sont là. Cette lenteur peut alimenter un découragement qui amène au cynisme, mais en même temps, en ne continuant pas, il y a encore moins de chances de changer le fonctionnement des structures en place. Les gouvernements, comme les grandes institutions de défense des droits de la personne, etc., sont des structures lourdes qui ne bougent pas facilement, au point où l'on peut se demander s'il n'est pas plus pertinent de s'attaquer fondamentalement aux carences du système que de continuer à jouer avec les institutions en place comme si elles étaient véritablement efficaces. Je pense qu'il faut, à tous les niveaux, ne pas hésiter à les confronter face à leurs erreurs. C'est plus une question, je n'ai pas la réponse. Je continue d'apprendre et à chercher des stratégies qui soient efficaces. Les schémas de pensée avec lesquels on est confronté quand on s'adresse à des décideurs, des ministres et parfois même à l'intérieur d'organismes humanitaires sont tellement profonds, enracinés et anciens qu'il est évident qu'on ne peut les faire changer rapidement. Un exemple simple, de parler d'un enjeu humanitaire publiquement représente déjà une victoire, alors qu'énormément de gens, pour de multiples et diverses raisons, préférerait que l'on n'en parle pas. Mais c'est un jeu d'équilibriste quand on sort d'une zone de conflit et que l'on se retrouve devant des ministres, dans des conférences internationales, dans des espaces confortables, sécuritaires, à des années-lumière de la réalité sur le terrain. La transition est difficile, mais c'est une transition qui est nécessaire, car il est plus facile d'apporter de l'information à des gens de pouvoir que d'amener ces gens de pouvoir ou ces décideurs dans des camps de réfugiés pour qu'ils constatent par eux-mêmes. Très souvent, je nous considère comme des traducteurs de certaines réalités, parce que nous sommes allés sur le terrain, et de les traduire pour qu'elles soient comprises par des diplomates, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de sortir beaucoup de leur bureau pour leur faire comprendre la nécessité que leur État agisse pour tenter de résoudre tel ou tel problème. Une transition aussi entre les habits sur le terrain et le veston-cravate pour se rendre dans une ambassade ou à un congrès. N'as-tu jamais eu peur de devenir un fonctionnaire de l'humanitaire? De passer en somme de l'autre côté de la barrière et de te contenter uniquement d'apporter la bonne parole? Bien sûr que c'est un risque. C'est une des raisons qui m'a poussé à quitter Human Rights Watch. Le levier que constituait cet organisme, son pouvoir donc, est pour moi en train de s'effriter et n'a plus le même mordant pour dénoncer ce qui se passe. Même s'il continue de faire un très bon travail de documentation sur la question des droits de la personne, mais son pouvoir a passablement diminué. Actuellement, tu es en Norvège. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Après l'échec des élections, il me fallait un peu de temps pour me remettre. Comme beaucoup d'autres, je peux traverser des périodes, heureusement courtes, de découragement. Mais je ne suis pas inactif. Disons que j'accomplis des missions, d'une certaine façon diplomatiques, pour rencontrer des institutions, des diplomates, etc., pour les convaincre d'agir dans certains dossiers. Ce ne sont pas des vacances. Même si tu viens d'un milieu défavorisé matériellement, tu te considères comme privilégié et donc responsable? Quand on est et qu'on grandit en Amérique du Nord, on a une vie plus facile que si l'on est au Soudan, par exemple. D'avoir pu étudier et d'avoir eu les opportunités que j'ai eues sont des marqueurs avec, bien sûr, des guillemets, mais qui devraient être les mêmes pour tous et toutes dans le monde. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit de manger. Et peut-être que ce privilège que j'ai eu m'a donné ce sens de la responsabilité, c'est-à-dire d'avoir conscience de faire partie d'une expérience humaine plus grande que nous. Au-delà d'être en vie, de la joie d'être en vie, c'est notre responsabilité de contribuer à cette expérience humaine. Et si l'on n'ajoute pas notre pierre à l'édifice, à tout du moins que l'on n'en enlève pas. C'était Jonathan Pedneau, Le cœur avant la tête. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.